Bonjour à toutes et à tous. David Rosset, je suis un des pasteurs de cette église. Je suis un peu, pas stressé, mais quand même un peu embêté avec une toux un peu irritative. Alors si jamais je me lance dans un grand éclat de cela, ne soyez pas surpris, j'espère que ça tienne jusqu'à la fin de la prédique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une grande nouveauté aujourd'hui. Ah, c'est derrière vous, oui. Il est beau, hein, on peut applaudir Dominique qui l'a installé après. Après une année de patience, j'ai mon écran qui est là, comme ça je vais pouvoir vous parler, partager la parole, je l'espère encore plus librement. Et puis, il y a une conséquence qui est quand même assez majeure, c'est que vous vous souvenez, à la chaire, il y avait une espèce de laisse. Un grand cordon noir. Peut-être que vous n'étiez pas ici, c'était un peu moins stressant. Mais chaque fois qu'on devait faire un déplacement, il y avait ce cordon noir qui nous embêtait. Et là, Myriam, tout à l'heure, va pouvoir déplacer la table de la scène au milieu. Le cœur léger et l'esprit libéré. C'est extraordinaire. Et puis vous noterez aussi la complémentarité de l'équipe pastorale, où je ne mets pas de cravate et moi, un collègue en met une. Il y a quand même des sacrées évolutions de la société helvétique. On pourra débattre au café après si c'est bien ou pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, je lui ai même dit que je ne savais même pas faire un nœud de cravate, donc j'espère que je choque personne, mais je vous dis la vérité, c'est clair. Je suis la lumière, ça fait partie de cette série « Un mois pour aimer pas », qu'on se fixe sur Jésus, sur cette manière qu'il a de se révéler à nous, en se préparant à cette fête centrale pour les chrétiens, qui est la fête de Pâques. On a la joie de vivre ce projet tous ensemble de « Un mois pour aimer Pâques ». Donc là, je vais faire un test. Qui est-ce qui savait que Myriam allait porter une cravate rose ce matin? Trois personnes. Alors, ce n'est pas beaucoup au niveau du succès du projet communautaire, c'est un peu moyen. Parce que c'était une question qu'il y avait sur le site « Un mois pour aimer Pâques », donc un projet communautaire pour toute notre église. Et puis dans ce projet communautaire, il y a une méditation par jour, et il y a un témoignage. Cette semaine, par exemple, vous avez pu entendre Régula Caloni, par exemple. Qui l'a entendu, Régula? Ah, c'est... le pasteur est un peu plus satisfait. Et à un moment donné, il y avait aussi cette question de quelle couleur est-ce que vous voulez que votre pasteur porte la cravate ce dimanche? Et le résultat du sondage a donné une cravate rose. Et j'ai dit à Timon qu'il avait aussi bien compris le sondage ce matin. Vous pouvez vous regarder, tous les regards convergent sur toi. Donc, je vous encourage par ces quelques petites boutades à retourner sur ce site, un mois pour aimer Pâques, empa.ch. On a fait plusieurs fois de la promotion de ce site-là. C'est vraiment notre projet communautaire. Et avec toutes les églises de notre fédération, la Fédération romande des églises évangéliques, la FRE, on est tous ensemble pour vivre ce projet parce que pour nous, Pâques est centrale, comme pour tous les chrétiens. Puis là, on peut vivre quelque chose ensemble de fédératif. Et ce matin, nous allons méditer sur le texte que Myriam nous a lu, de cette guérison d'un aveugle né, avec ce thème de « Je suis la lumière ». Et la première photo sur laquelle je suis tombé, c'est celle-là. Alors j'ai gardé Astérix et les Obélix Mission Cléopâtre hier. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène assez marquante. Lorsque le petit magnot, il descend vers les crocodiles, et c'est Jamel qui est un peu en train de transpirer, s'il a des retards dans son travail de chantier pour construire le plus beau palais du Pharaon. Ce n'est pas tellement pour ça que je l'ai pris, cette photo, même si elle est impressionnante. C'est pour se dire qu'on est exactement en négatif de ce qui se passe dans la parabole, enfin dans cette guérison de Jésus. Là, il est complètement sous la boue, et la seule chose qui reste visible, c'est cet œil impressionnant. Et dans le texte qui nous est donné, c'est exactement le contraire. L'aveugle né doit passer par cette étape où son œil est recouvert de boue pour ensuite voir et voir une vie nouvelle à tous les niveaux. Ce miracle, il produit des réactions parce que la puissance de Jésus ne laisse jamais personne indifférent. Et avant d'aller sur la signification du miracle, c'est... je trouve important aussi en préparant Pâques où on assiste au miracle par excellence de la résurrection de Jésus, de se poser, nous, chrétiennes et chrétiens, face à cette puissance de Jésus. Quelle est ma réaction face à cette puissance de Jésus lorsqu'il accomplit des miracles comme ça? Comment est-ce que je réagirais si tout à coup il le faisait dans les rues de Nyon, puis que, en tant que responsable d'église, j'ai vent de cela, puis je me demande ce qui se passe, est-ce qu'il l'a fait en plus de manière un peu non catholique, ou en tout cas non évangélique, ou en tout cas pas le jour où il fallait qu'il le fasse? Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis à cette puissance de Jésus qui arrive d'un simple geste à redonner la vue à quelqu'un qui était aveugle de naissance? Et souvent, en fait, notre réaction, c'est de tout de suite aller sur l'explication que Jésus donne, puis d'aller sur une interprétation un peu plus symbolique, quel est l'œil que je dois ouvrir dans ma vie, on va y venir. Mais avant, on doit passer par cette étape d'être interpellé par la puissance du miracle de Jésus. Parce qu'on a toujours cette même puissance avec l'Esprit-Saint qui nous habite, avec l'Esprit-Saint qui est en nous. C'est ce que nous dit la parole, c'est ce qu'ensuite, dans la suite de ce même évangile de Jean, où on a lu ce récit de miracle, Jésus donne cette puissance à ses disciples. Et cette puissance, elle continue de nous déranger parce qu'elle nous pose des questions qui viennent nous chercher. Comment est-ce possible? Elle est assez simple, cette question. Comment Jésus y fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau médical? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil de cet aveugle-né pour que tout à coup, à travers un geste qui n'a rien de médical du tout, je suis sûr que Geoffroy, tu me confirmerais, il retrouve la vue alors qu'il n'avait encore jamais vu. Et on voit bien que Jésus, là, il a un côté dérangeant et je nous invite à garder ce côté dérangeant. Pas tout de suite aller à l'étape numéro 2. Ça nous dérange, ce miracle. Cette puissance, et normalement cette puissance de la résurrection qu'on fait à Pâques, elle doit continuer de nous déranger, même si on le sait depuis peut-être 50 ans ou 60 ans, puis qu'on fait Pâques fidèlement depuis là. Ça nous dérange. Comment ça se fait que Jésus, cloué sur une croix, 3 jours plus tard, ses disciples vont voir pour faire le service habituel au tombeau, il tombe sur un tombeau vide. Il y a là aussi quelque chose de dérangeant. Comment est-ce possible? Et je crois qu'on a toujours besoin de renouveler notre regard là-dessus. Et cette volonté de comprendre, elle est légitime. Ça fait partie de nous, les enfants, s'il se passe quelque chose, ils ont envie de comprendre pourquoi. Puis je crois qu'on est tous des grands-enfants à ce niveau-là, quand il y a quelque chose qui nous dérange, on a envie de comprendre pourquoi. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner l'explication, si ce n'est que cette puissance de Jésus, elle reste actuelle. Est-ce qu'il ose encore nous déranger? Et puis là, si vous lisez, et ce que je nous encourage toujours à faire, les récits des évangiles, vous verrez qu'il n'y en a pas qu'un d'exemple de miracle. Ça s'aligne. C'est impressionnant de voir à quel point les évangiles mettent en avant cette puissance miraculeuse de Jésus. Alors allons-y, replongeons-nous dans ce côté dérangeant. Et il y a un deuxième aspect qui est extrêmement dérangeant dans ce texte, je ne sais pas si vous avez vu lequel, c'est cette question de la souffrance qu'on n'explique pas non plus. Tout le monde le connaît, cet aveugle qui est là parce qu'il fait la manche, parce que sinon il n'a pas de moyen de subsistance. Tout le monde sait qui il est et tout le monde, à sa vue, est dérangé parce que ça leur pose la question, ça nous pose la question, comment ça se fait qu'il est avec cet handicap-là? Et ça aussi, ça nous dérange, cette question de la souffrance inexpliquée. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi répondre? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils cherchent un coupable, exactement. Il nous faut des solutions, et si possible des solutions simples. Alors, il n'y a rien de plus simple que de désigner un coupable. Hein? C'est toujours comme ça. Vous avez un problème dans un groupe, c'est en tout cas pas moi, c'est souvent l'autre, hein, évidemment. Il y a un problème, solution, il faut un coupable. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Question trop difficile, ses parents ou lui ont dû pécher, puis ce n'est pas n'importe qui le dit. Vous avez suivi qui ce qu'il l'a dit, ça? Les disciples que Jésus essaye patiemment de former. On rigole, mais ils rament souvent avec nous. Hein. L'être humain, là aussi, il a besoin de comprendre il a besoin d'explication. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. C'est pour ça, et ce n'est pas forcément une excuse, c'est une situation de vie concrète qui permettra à la puissance de Jésus de se manifester et d'enseigner aussi celles et ceux qui sont avec lui. Parce que Dieu aime à se manifester. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui reste dans son coin puis qui reste inaudible ou non manifeste. C'est un Dieu qui aime à se manifester et à nous montrer des choses très concrètes, très précises. Et on verra que c'est à nous de savoir ouvrir les yeux bien plus souvent qu'à Dieu d'agir. Et ça, on va le garder. Parce qu'un miracle dans tout l'évangile de Jean, c'est aussi un signe. On aborde cette deuxième partie. Qu'est-ce que j'apprends de celui qui produit le signe ? Parce que pour Jean, c'est encore plus essentiel que la puissance du miracle. Le miracle, c'est une chose, mais c'est pour manifester qui est Jésus. Et il y a plusieurs signes possibles, et moi j'aime bien toujours me rappeler de ce signe de l'arc-en-ciel. Vous vous souvenez ce que c'est, ce signe de l'arc-en-ciel ? Vous ne voyez pas tellement, alors ouais, ce n'est pas tellement contrasté, c'est beaucoup mieux sur le mien d'écran, donc vous pouvez... Vous allez tous vous tourner maintenant, exactement. Ce signe de l'alliance entre Noé et Dieu, qui dira que plus jamais il n'y aurait de destruction par les eaux. Plus jamais ça n'arrivera. Et là, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, moi je pense que ça fait partie de ces signes qu'on est toujours invité à voir. Ce n'est pas juste là, joli, oh, magnifique, puis on met une photo sur Insta. Il y a une signification bien plus profonde qui manifeste l'alliance de Dieu avec nous. Dieu produit des signes à l'attention de sa création et de ses créatures que nous sommes. On a un Dieu actif qui parle et qui continue de nous parler et qui a parlé de manière unique à travers l'action de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jésus, à travers ce miracle ? La première chose, c'est que lui-même, il montre l'exemple parce qu'il voit cet homme et sa situation de souffrance. Et là, on apprend déjà quelque chose de qui est Jésus, c'est qu'il voit les femmes, les hommes, et je pense particulièrement lorsque nous sommes en situation de souffrance. Il y a une attention, et là on le retrouve absolument cette constante dans tout l'Évangile, particulière pour les personnes qui sont en situation de souffrance. C'est extrêmement clair dans tous les Évangiles, il y a cette attention, ce regard sur les situations de souffrance. Relisez-les, puis vous verrez. C'est impressionnant. Parce que chaque fois qu'il y a cette situation de souffrance, il y a une possibilité pour Dieu de manifester sa grâce et de sortir cette personne-là de la souffrance. Et il ose voir cet aveugle-né que tout le monde voit sans le voir. Jésus, en ce sens-là, on va le voir par la suite, nous montre aussi l'exemple de l'attitude à avoir et de garder cet œil ouvert sur ces situations de souffrance qui parsèment la vie. La deuxième chose, on l'a vu un peu en bref, c'est qu'il évacue les mauvaises réponses, le péché des parents qui provoque la souffrance. Et c'est encore une croyance beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Parce qu'au premier abord, première lecture, on se dit, bon, ça c'était dans les sociétés archaïques, maintenant nous, modernes, on a plus ce genre de problèmes. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une petite pensée qui nous trotte bien dans la tête, c'est que l'on est responsable de son bonheur. C'est subtil, mais c'est assez souvent le cas. Il faut plutôt faire des bonnes notes à l'école, comme ça après on a une bonne formation, puis après comme ça on a une bonne situation, puis ensuite, ben, si on a une bonne situation, on sera quand même plutôt heureux. Donc prenez l'exemple en négatif. Si ce n'est pas vraiment le cas, puis que le résultat n'est pas le même, est-ce que vous n'êtes pas quand même un tout petit peu responsable ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu responsable de notre situation ? Est-ce que, finalement, celui qui a beaucoup moins, à la fin du mois, il n'est pas un petit peu responsable parce qu'il a mal travaillé à l'école, ou bien il était un peu distrait, ou bien ci, ou bien ça ? Puis on peut y rajouter, hein, la petite liste comme ça, elle se fait assez naturellement dans nos têtes. Tout ça pour dire, ce n'est pas pour nous mettre une chape de plomb, c'est pour dire qu'on a toujours ces mécanismes à deux balles qu'il nous faut vraiment savoir reconnaître et couper. Et là, Jésus, il fait le tri. Et ce que j'aime bien toujours avec Jésus, il ne fait pas le tri de manière helvétique, un peu avec beaucoup de pondération et puis beaucoup de négociation, ou bien le tri même à la frate, il ne contente pas une partie et puis une autre. Il tranche, il dit non, ni lui ni ses parents n'ont péché, point à la ligne, discussion terminée. Et il passe à autre chose, il fait le tri. Faire de l'ordre dans ses pensées. Qu'est-ce que je dois évacuer dans ma vie aujourd'hui comme pensée qui ne porte pas de fruit? On peut garder ça comme question. Qu'est-ce que je dois évacuer à la manière de Jésus, de trancher, de dire là, tac, ce genre de phénomène, de mécanisme, je dois le couper. Et ensuite, il agit, nous l'avons vu, de manière étonnante, de manière déroutante. Il propose à cet aveugle, enfin, il met de la boue sur ses yeux, il lui dit « va te laver ». Il y a aussi une part active de la personne qui va être guérie. Il donne la vue à quelqu'un qui ne l'a encore jamais eue. On l'a vu, ça nous étonne. Et au-delà du miracle ensuite qu'il laisse sans voix, il s'agit de reconnaître celui qui est à l'origine du miracle. À savoir que Jésus, ce n'est pas un charlatan X ou Y, ce n'est pas seulement un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a trouvé une belle formule et puis qui peut la réciter et puis que c'est très efficace. Jésus tient sa puissance du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est vraiment ce que Jésus veut nous transmettre au-delà du miracle qui est extraordinaire. Quelle est ma réaction par rapport à ce Jésus-là? Comment est-ce que je me positionne par rapport au fait que Jésus est et se présente, se manifeste comme étant le Fils de Dieu et qu'il tient sa puissance de ce Dieu-là? Jésus est toujours actuellement, même 2000 ans plus tard, cette lumière du monde qui continue de nous éclairer. Et c'est pourquoi on continue en tant que chrétien de fêter Pâques, de préparer Pâques, de se réunir tous les dimanches matins pour proclamer qui est Jésus. Reconnaître que Jésus est la lumière de ma vie. Et si ce n'est pas encore fait dans les cœurs, dans mon cœur, on peut le faire aujourd'hui, simplement dans cette église, de manière extrêmement simple, aller à l'image de cet aveugle qui demande à Jésus « Ouvre-moi l'œil finalement. » Ouvre-moi les yeux. Accueillir cette lumière que Jésus continue de nous proposer. Quelle est ma réponse? Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire en rentrant chez vous. Vous pouvez aussi le faire simplement en prenant une part active à ce repas que l'on partage chaque dimanche, qui est constitué d'un bout de pain, d'un verre de jus de raisin, et qui signifie qu'en le prenant, on croit que Jésus est la lumière de nos vies, qu'il est mort et ressuscité pour nous et qu'on a besoin, comme cet œil, d'avoir les yeux ouverts sur cette réalité. Si on y participe sans toute liberté, on reconnaît que Jésus est la lumière de notre vie. Et c'est, je pense, la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir. Il y a encore un autre geste qu'on est en train de préparer, c'est toute une préparation au baptême. Et puis là, on peut, de manière encore plus visible qu'à travers la Sainte Cène, dire qu'on appartient au Christ, parce qu'on confesse qu'on a envie de mourir et de ressusciter avec lui à travers ce geste qu'il nous a aussi laissé, ce geste de plonger dans l'eau et de ressortir vivant en laissant ce qui est mort au fond de l'eau. Il y a une préparation au baptême qui est en train d'être suivie par plusieurs d'entre nous. Alors vous pouvez simplement vous adresser à nous si vous désirez aussi la suivre. Tous ces gestes-là, et puis encore plein d'autres, permettent de dire « Je reconnais que Jésus est la lumière de ma vie et c'est vraiment ce que je souhaite à chacune et chacun, ici réunis, à chacune et chacun qui nous écoute. » D'oser ouvrir les yeux sur qui est Jésus véritablement. Faites-le, ça vaut la peine. Et ensuite, il y a des conséquences. Et la conséquence, elle a été illustrée à travers le deuxième texte que nous avons médité dans l'Épître aux Éphésiens. Et puis dans cette Épître aux Éphésiens, il dit « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. vivez comme des enfants de lumière. Alors ça, c'est une traduction qui est assez agréable à entendre. Mais si on la traduit de manière littérale, c'est plutôt mis « vivez comme des illuminés ». Alors, votre réaction me dit quelque chose quand même. Si je fais le petit sondage, qu'est-ce qui est assez fier d'être considéré comme un illuminé? C'est difficile, hein? Surtout quand vous avez le verset qui est là et puis qui vous dit « c'est votre nouvelle statue ». C'est pas facile à porter hein, comme terme. Quand on parle d'un illuminé, c'est rarement très positif. C'est au mieux un décalé, au pire un fou qui n'a rien compris et puis qui vit un peu sur une autre planète. Et pourtant, c'est le terme qui nous est attribué. Puis je pense qu'il nous faudrait peut-être prendre un tout petit peu plus des fois de folie de ce terme-là. Puis peut-être d'oser d'être un tout petit peu plus illuminé, même si au niveau social, ce sera pas forcément hyper agréable à vivre. Qu'est-ce que ça me fait si on me dit que je suis un illuminé ? Un illuminé, c'est tout simplement quelqu'un qui reçoit sa lumière de quelqu'un d'autre et qui agit en conséquence. Et là aussi, c'est un contre-pied magnifique à tout ce qui se passe actuellement de développement personnel où on doit chercher notre propre lumière. C'est une disposition où on reçoit la lumière de quelqu'un d'autre, où quelqu'un d'autre vient, fabrique de la boue, la met sur nos yeux et nous dit d'aller nous laver. C'est complètement différent comme geste. On est disponible à cette lumière qui peut venir en nous et transformer le regard qu'on a sur le monde. Et ensuite, ces différentes caractéristiques qui nous foutent un peu la pression quand on les lit, parce que Paul, il y va à la louche, hein, en termes du bon comportement de l'illuminé, de qu'est-ce qui est censé arriver de l'illuminé, ça peut un peu nous asseoir, comme on dit. Il nous faut prendre là aussi le problème à l'envers. Il faut nous rappeler de où nous tenons la lumière, nous rappeler de notre engagement à reconnaître cette lumière et ensuite nous laisser inspirer. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le bœuf, si on prend cet exemple-là, ça c'est pas très biblique, mais vous avez compris. C'est lui qui nous donne la direction, c'est lui qui nous donne la possibilité de prendre notre charrue, de prendre notre joug et d'aller dans cette direction-là. Alors mon encouragement, c'est qu'on puisse être attentif cette semaine, nous, les illuminés et les illuminées, au moment où Dieu va ouvrir nos yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un, où il va nous inviter à poser un regard différent sur les éléments de nos vies qui font peut-être partie des meubles, peut-être sur des personnes que l'on voit sans voir. Je ne sais pas, en fait, comment Dieu va s'y prendre pour mettre de la boue sur mon œil et puis me faire voir une situation nouvelle. Parce qu'il aura X manières différentes pour chacune et chacun d'entre nous de nous parler. Ce qui est commun, c'est notre disposition à accueillir cette parole, c'est notre disposition aussi à assumer notre statut d'illuminé et d'illuminé. Alors, ce que je nous encourage à faire, c'est d'oser recevoir cette lumière. Peut-être, si vous ne l'avez pas fait, de reconnaître cette lumière. Puis là, vous pouvez venir me parler à la fin du culte, puis dire, ben, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller plus loin, de faire un pas de plus en direction de Jésus, qui est la lumière du monde, qui est aussi la lumière de ma vie. N'hésitez pas à venir vers Myriam, vers moi, et d'oser porter ce regard différent. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous illumine. J'aimerais finir en priant. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui aime te manifester. Tu es un Dieu qui vient dans nos vies nous apporter ta lumière, ta force, ta puissance. Merci parce que tu es ce Dieu de victoire aussi qui a vaincu la mort, qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui est ressuscité, qui est passé de la mort à la vie et qui nous offre cette vie pour l'éternité. Merci parce que nous pouvons le célébrer ensemble, le vivre ensemble et nous encourager dans cette direction-là. Sois la lumière de nos vies. Sois la lumière de ma vie, Seigneur. C'est ma prière. Amen.